quand Hanna, la mère de Shmuel, quand Hanna priait, elle était chez Eli HaKohen. Le Kohen Gadol à ce moment-là, c'était Eli avec un Aïn, oui, Eli. Et Eli, il utilisait Urim Vetumim. Quand il posait les questions, il utilisait les Urim Vetumim. Et le Gaon explique comment fonctionnaient les Urim Vetumim pour Eli en tout cas. Il disait comme ça. Avec les Urim, Urim c'est la chaîne or, feu, lumière. Alors, sur le Hoshen, il y avait les lettres, sur son pectoral, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y avait les lettres, et les lettres luisaient. Quand il interrogeait, la réponse est qu'il y avait des lettres qui luisaient. Ils allumaient, quoi. On dirait comme ça. Et grâce au Toumim, il savait comment les mettre bout à bout, ces lettres, parce qu'elles n'étaient pas dans l'ordre. Elles s'allumaient, mais il fallait ensuite les mettre dans l'ordre. Et quand il a interrogé les Urim et Toumim au sujet de cette femme-là, il voit cette femme-là qui prie d'une manière inusitée, je veux dire, pour lui, elle était une chikoura, quoi. Justement, ce qu'il a pensé, parce que les lettres qui sont sorties, c'est Shin Kaf Resh, c'est d'ailleurs Shikura. Elle était Shikur. Et donc, il l'a traité de Shikura. Il était sûr de son fait, parce que il avait consulté Urim Vetumim. Donc, il savait. Urim Vetumim, c'est Tamim, ça veut dire entier, mais c'est aussi une façon de une perfection. On a des lettres, mais maintenant, il ne sait pas comment. Les lettres qui s'allument, elles ne s'allument pas dans un ordre, elles s'allument selon l'ordre qui est fixé sur le tableau en question. Alors, les Toumim lui disaient, les Toumim, il devait avoir une idée, une inspiration qui venait des Toumim pour savoir comment on est Metsaref, comment on met bout à bout les lettres. Et en fait, il s'est trompé. Il s'est trompé parce que, visiblement, on pouvait se tromper. Parce que ce sont les lettres qui veut dire kshera. Kacher aussi. D'accord? Il suffit de laisser le rechet à la place et de permuter le kaf et le shin. Le chikura, ça fait kshera. Ça veut dire que ce que les Urim et Toumim lui répondaient concernant Hana, c'était une isha kshera. C'était pas une souillon, c'était une isha kshera. Et c'est ce que Hana lui a dit. Parce que lui, il s'est adressé, il lui a dit, va cuver ton vin ailleurs, quoi, quasiment. Alors elle lui a dit, lo adoni. Non. Monsieur, enfin. Et dans la Gemara, dans Brachot, on dit, qu'est-ce que ça veut dire, elle lui a dit, lo adoni. La Gemara dans Brachot, elle dit, lo adon atav devarze. Tu n'es pas le maître dans cette question-là, sur cette question. Tu te trompes. Chez lo sharta alecha ruach hakodesh. Tu n'as pas été inspiré. Normalement, avec les Toumim, il aurait dû être inspiré pour trouver la bonne combinaison. Il lui a dit, tu n'es pas inspiré. C'est-à-dire, tu as vu les lettres grâce au Urim. Mais le tsirouf, la combinaison des lettres était fausse. Donc, c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui a dit l'eau, Adoni. Et Chazal dit, ça veut dire tu n'es pas le maître. Tu ne maîtrises pas la situation. Tu n'as pas été inspiré. C'est ce que Hana lui a dit. Ici, il dit le Rav Davis, que je vous ramène ici, il dit, il y a ici le début de ce qui concerne Amalek. Chez Mizé Yatsa les dates Shmuel, chez Machar, Shaul et David. D'accord ? À la suite de cet épisode-là, Hana, la prière de Hana a été entendue, elle va avoir un enfant, et cet enfant, c'est le prophète Shmuel. Bon, j'ai toujours répété que Shmuel, c'est un géant. C'est marqué que Shmuel, il est aussi grand que Moshe et Aaron. Donc, c'est pas un petit bonhomme. C'est lui, le prophète, qui va être en charge d'ordonner à Shaul, puis à David, d'aller faire la guerre contre Amalek. Donc, il y a quelque chose, il y a un lien entre la naissance de Shmuel et Amalek. C'est-à-dire que tant qu'il y a Amalek dans le monde, Yeshkan Chotzetz Vegorem Chatzitza ou Bilbul Betzirufim Anechonim. C'est-à-dire, il faut comprendre que comme on est entré dans un domaine qui touche Amalek, c'est-à-dire dans cette prière de Hana, et dans cet état dans lequel était Hana, il y avait quelque chose qui allait naître et qui avait à voir avec la guerre contre Amalek. Et donc, puisque Élie, à ce moment-là, il a été troublé, enfin, il n'a pas su mettre bout à bout les bonnes lettres. Enfin, c'était les bonnes lettres, mais il n'a pas su les mettre bout à bout, les combiner. Donc, c'est Amalek qui fait. Amalek, il amène ce qu'on appelle du flou, du bilboul, du désordre. Dans quoi ? Dans les combinaisons. Il empêche que les combinaisons se fassent bien. Ou le bassof, quand on aura complètement éradiqué Amalek, alors. Tetsé, ah oui, je ne l'ai pas appelé, évidemment. Alors, regardez, est-ce que j'ai assez de...
Alors, tu me laisses une note.
Abrégé. Donc, quand il y a Amalek, il est balbel. Amalek, il brouille les choses, il met du flou dans les... Donc, c'est à cause de lui qu'effectivement, Élie n'a pas compris, etc. Alors, pour l'instant, on n'a pas dit pourquoi il était important que Élie ne comprenne pas. Bon, qu'est-ce qu'il y aurait eu de mal si Élie avait tout de suite su mettre en main. Le problème, c'est révélateur de l'influence d'Amalek. Amalek est déjà là, à la naissance, avant même la naissance de Shmuel, donc il est là, même quand la guerre contre Amalek est de façon extrêmement... potentiel, de super potentiel. Et Shmuel n'est pas encore né, mais il n'est pas conçu. Mais finalement, nous, on va passer à Chikrout. On va prendre cet état d'ébriété, puisqu'on va boire à Purim. Il y aura donc la simcha qui résulte de la chikrout. Mais tout ça, ça viendra après, bien sûr. Et dit, Vyesh le Faresh peut expliquer que quand Hana lui a dit Lo Adonata, quand Hana lui a dit tu n'es pas le maître, c'est-à-dire tu n'as pas eu de roi Hakodesh, tu n'es pas inspiré, C'est pour ça que tu n'as pas su mettre bout à bout les lettres pour faire Kshera, et toi tu as lu comme si c'était marqué Shikura. Donc, ici, ce qui est important, semble-t-il, elle lui dit, pourquoi elle l'interpelle en disant « Lo Adoni », tu n'es pas le Adon. Pourquoi elle aurait pu dire « Tu te trompes, c'est tout. Lo Adon, tu n'es pas Adon, tu n'es pas le Seigneur, tu n'es pas le Maître. Pourquoi cette dénomination ? Pourquoi elle ne lui a pas dit « Tu t'es trompé, c'est tout. » Non, elle lui dit « Lo Adon, tu n'es pas le Maître. » Il faut dire que Chazal dit sur le mot Adon, Chazal dit c'est Adon Kol Haaretz. Dans le pasouk de Yoshua, le pasouk qui dit le maître de toute la terre. Pirusho, Oker Diurin ou Machnis Diurin. C'est-à-dire Mesader ou Metzaref Kirtsono. Chazal explique. Qu'est-ce que ça veut dire être le maître de la terre? C'est celui qui il permet à ceux-là de s'installer ici, et il prend ceux-là et dit toi tu t'installeras ailleurs. C'est-à-dire c'est lui qui gère les habitants sur la terre. Adon c'est la gestion, donc c'est de nouveau la gestion comme c'est la gestion des lettres, mettre les lettres au bon endroit, c'est aussi mettre les gens au bon endroit. D'accord? Gérer. Pourquoi Adon? Adon c'est fait référence à celui qui est le maître de la gestion, de la mise bout à bout, de mettre celui-ci à cette place-là et celui-là à cette autre place. Donc c'est pour ça qu'elle lui a dit « Lo Adon Ata, tu n'es pas le maître », ça veut dire « tu n'es pas le maître » au sens où tu n'as pas l'inspiration qu'il faut pour savoir comment mettre les lettres au bon endroit. Dans toutes les tfilotes, pour cette raison, nous, dans toutes nos prières, quand nous en vérité, Enelu Yodim Atsirufim, nous, on ne sait pas comment il faudrait mettre les choses dans l'ordre, quelles lettres il faut utiliser, et dans quel ordre il faut les mettre. Aval Mosrim Anu Atzmenu Vedaatenu Elavid Barach. Mais on s'en remet à Hachem. On s'en remet à Hachem pour qu'il mette les choses en ordre. Et c'est ce qu'on dit au début de la Shemoneh Esrei, on dit Hachem, on dit Lashon Adon. Donc Adon, d'accord, c'est Sfatay Tiftach. On s'adresse à lui en tant que Adon. Et pas en tant, on aurait pu dire Elohim Sfatay Tiftach. Ou Hachem Tétragramme Sfatay Tiftach. Pourquoi on dit Adon? Mashé yotzot misfateinu tiftach ata. Adon ata. Nous on va dire les choses, mais peut-être il faut les réarranger. Nous on dit comme on comprend, mais on s'en remet à toi pour que tu les arranges de la façon correcte, pour qu'elles aient l'impact qu'elles doivent avoir. Donc, ouvre nos lèvres et que ce qui sort, ce soit des lettres qu'il faudra ensuite mettre en ordre dans les mondes supérieurs. Nous, on fait ce qu'on peut. Donc, on voit qu'il y a une force dans les lettres. Il y a une réalité dans les lettres. C'est une réalité comme il y a une réalité du minéral, du métal en fait. Il y a un corps. Les lettres sont susceptibles de se regrouper de toutes sortes de manières dans le monde d'en haut. Donc d'une certaine manière, nous, quand nous prions, on dit un certain mot. Mais en réalité, on dit des lettres. Et ces lettres, elles sont susceptibles de l'arrangement qu'on leur a donné, nous, mais aussi d'autres arrangements qui auront aussi un impact dans le monde d'en haut. Des impacts successifs. Donc c'est comme si chaque mot était en quelque sorte une possibilité de mettre bout à bout différemment les lettres qui composent ce mot. Donc un mot, c'est un ensemble de permutations de ces lettres, en fait. Bon, on peut les permuter. Donc quand je dis un mot, en fait, j'ai dit beaucoup de mots. J'ai dit tous les mots qu'on peut former avec les permutations des lettres qui composent le mot que j'ai dit. Et en haut, bon, on choisira les permutations qu'il faut pour que ça puisse avoir un impact. C'est ce que dit le Nefesh HaChaim, que dans les Tevot HaTfila, Munachim Kol HaTzirufim de Gdusha Ad Achrit HaYamim. Il y a dans les lettres de la prière, donc dans les mots de la prière, il y a toutes les combinaisons de lettres possibles qui vont faire en sorte que le monde va pouvoir vivre, se développer, etc., jusqu'à la fin des temps. Vimken, yachol liot gam ha simcha shelanu, donc même notre simcha à nous, qui est du type ad de loyada, il faut se réjouir jusqu'à, disons, boire éventuellement ou dormir, je ne sais pas, jusqu'à ad de loyada, jusqu'à ce qu'on ne sache plus faire la différence. Peut-être que c'est megalé gdushat aguf a yehudi shenishar belodat. Ça indique que le corps juif, en fait, il est sans date, puisqu'on ne sait plus faire. Quand on ne sait pas faire la distinction, c'est qu'on n'a pas de date. Le date, c'est ce qui sert à faire la distinction. Mais néanmoins, talui alav venichlal bo kol ha'elyonot shel mala. C'est-à-dire, en fait, les juifs sont dans un état. Être juif, si vous voulez, c'est être dans un état où, même si on ne comprend pas du tout, parce qu'on n'a pas de date pour distinguer, d'accord, malgré tout, les choses vont se faire comme elles doivent se faire. C'est-à-dire que, pendant le travail des avot, etc., ou le fait qu'on nous ait donné la Torah, hein, je ne sais pas, c'est ce qui fait que, même quand nous ne savons pas, on n'a pas le date, les choses qui doivent se faire se font quand même. Uklal amru shekdushat haguf lo paka bichdi. Kivan shenishtaresh beguf tu lo tipaka. Il y a une règle générale que kdushat haguf, quand on met de la kdusha dans un objet et l'objet devient lui-même kadosh, cette kdusha elle part plus, on peut plus la faire partir. Parce qu'en quelque sorte elle est devenue essentielle à l'objet. Velachen, Gamal Purim Neemar, Sheyeme Purim lo yavru mitoch ayudim. C'est marqué dans la Megillah, les jours de Purim ne disparaîtront pas de chez les Juifs, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne disparaîtra pas? C'est Tikvatenu She Aorot Anisharim Lanu, mais Simcha Tayom, que les lumières qui vont rester de la Simcha de Purim vont nous illuminer pendant toute l'année et qu'en fait elles disparaîtront jamais. Bon, puisque c'est une kedusha qui est devenue une kedusha intrinsèque, c'est une kedusha de chacun d'entre nous parce qu'on est des Bnei Israël. Il y a une kedusha qui fait que même là où nous ne savons pas, ad de loyada, on ne sait pas même distinguer, mais malgré tout, les choses elles se font comme elles doivent se faire. C'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire que Amalek, c'est celui qui, d'une certaine manière, voudrait nous empêcher d'avoir cet impact. Il voudrait empêcher que la bonne combinaison des lettres puisse se faire. Donc il va dire, oui, bon, il faut une combinaison de lettres, ok, on va prendre la mauvaise. Alors que, il a été capable d'induire en erreur Élie, bon, parce que, bon, il y avait probablement quelque chose chez Élie qui a fait qu'il était, on pouvait l'induire en erreur, mais il a, ce que Hana lui dit, c'est, tu te trompes, tu t'es trompé, parce qu'en fait, tu n'as pas été inspiré. Mais pourquoi elle est... Parce qu'il s'agit ici de quelque chose qui est tellement important que il faut être à la hauteur pour pouvoir, parce que finalement sa combinaison à lui, elle est tout aussi, on pourrait dire tout aussi respectable, de dire Shikura ou Kshera, ben, si il a mis les ordres, il a mis les lettres dans un ordre qui donne du sens au mot, le mot Shikura ou le mot Kshera, bon, ces deux mots qui sont du point de vue de la combinaison des lettres, qu'est-ce que tu vas dire? Il n'y en a pas une qui est plus légitime que l'autre. C'est correct de combiner. S'il avait fabriqué un mot qui n'existe pas, alors on pourrait dire, bon, je ne sais même pas ce que tu dis. Mais il a fabriqué un mot qui existe. Et en plus, ce mot qui existe, il décrivait pas mal, disons, en tout cas un regard superficiel sur ce qu'était Hana à ce moment-là. D'accord? Parce que Hana, elle a... Il ne pouvait pas deviner qu'elle priait, personne n'a jamais prié comme ça. Donc il ne pouvait pas savoir qu'elle priait. Elle a inventé une nouvelle façon de prier. Avant, on ne priait pas comme ça, on criait le nom d'Hachem ou des choses comme ça. Elle prie comme ça à voix basse, presque en pleurant, en pleurnichant, etc. Il dit, oh, c'est une souillon qui est en train de murmurer comme quelqu'un qui souffle, qui parle tout seul. Donc il n'a pas eu le mérite, il n'a pas eu l'inspiration de faire la bonne combinaison, mais ça c'est parce que on touchait ici à Amalek. Touche à Amalek et Amalek il ne veut pas de la bonne combinaison. Il veut nous imposer, il ne peut pas empêcher une combinaison, qu'il y ait une combinaison, mais il peut pousser la mauvaise. D'accord? Il ne peut pas dire ça ne marchera pas, les Urim et Thummim ils marchent. Mais maintenant, comme il y a une partie d'inspiration, là, il peut empêcher l'inspiration. Il utilise le mot chatzitsa, ça veut dire il met un écran, il n'y voit plus clair, Élie. Il n'y voit pas clair. Il ne voit pas clair dans ce qu'il faut faire. Amalek, il est là dans la potentialité, puisque Shmuel, c'est le prophète qui va ordonner à Shaoul d'aller faire la guerre contre Amalek. Oui, donc la naissance de Shmuel.
Élie, il avait rencontré le roi d'Amalek.
Non, il a rencontré personne. Mais Amalek est à l'œuvre dans l'histoire. Amalek, il existe, il est le petit-fils de Esav, il est là depuis le début. Ça fait longtemps. C'est un peuple, mais c'est plus qu'un peuple. C'est tout un principe, Amalek. Voilà, je voulais commencer par quelque chose sur Amalek, parce que il faut pas oublier, si vous voulez, que Pourim, ça a à voir avec Amalek. D'accord? Le problème de... Il faut pas oublier que Aman, c'est Amalek. Donc le problème qu'on avait à résoudre à Pourim, c'est Amalek. Et donc une solution finale, c'est un projet amalécite. Quand Amalek attaque les Bnei Israël dans le désert, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire échouer le projet des Bnei Israël. C'est tout. Il n'y a rien à gagner. Il n'a rien à gagner. Il n'y a pas de territoire à gagner. Il n'y a pas de... Il espère même pas du tout gagner dans cette guerre. Il sait très bien qu'a priori il va perdre. Mais il va montrer qu'on peut attaquer. C'est-à-dire, c'est pas Israël, ils ont la voie, automatiquement tu seras bien inspiré, etc. Élie sera bien inspiré. Non, on peut attaquer. Je peux attaquer. Il n'y a pas de... Israël n'est pas inattaquable. Il fallait faire cette démonstration. Donc, puisque l'image qu'on prend, hein, la fameuse baignoire dans laquelle il saute dans la baignoire, il s'ébouillante. D'accord? Donc il perd la guerre. mais il a montré qu'on pouvait attaquer. C'est-à-dire qu'il a réussi, alors que quand vous lisez la Shira, elle dit, les peuples, ils sont complètement paralysés. C'est, on a l'impression que l'avancée des Bnei Israël, c'est une promenade de santé. Je veux dire, personne ne bouge. Ils sont tous incapables de réagir. Ils réagissent. Ils ne peuvent pas réagir, parce que ce qu'Hachem a démontré en sortant Bnei Israël de Mitzrayim, c'est tellement énorme qu'ils ne peuvent pas bouger. Elle lui dit, mais non, on peut bouger.
Cette injonction-là qui est faite justement à ce moment-là, on dit que Amalek, il va falloir que tu t'en occupes de, à chaque génération.
Oui.
Est-ce que c'est justement le désordre, d'empêcher les bonnes combinaisons, comme si, je veux dire, c'est presque un couple, quoi. Amalek, toutes les générations, on va
falloir... Oui, c'est juste. C'est une guerre de toutes les générations, Hachem le dit. Milchama, Hachem, Amalek, Midor, Dor. De génération en génération.
Mais justement.
Pourquoi dans chaque génération il faut lutter contre Amalek? Parce qu'Amalek a un impact dans chaque génération. Et son impact, c'est le flou. Le fait qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait.
Mais on dirait que c'est une injonction. C'est comme ça.
Oui, c'est comme ça. C'est comme ça.
Il y aura un moment où
il y aura toujours ce problème. Jusqu'à la fin des temps.
Jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire la venue du Mashiach.
Oui, semble-t-il. Alors, si on regarde cette paracha de Zachor, elle est dite à la fin de paracha de Kitetsé. Elle fait référence à la guerre qui a eu lieu et qui est décrite à la fin de Béchalach. C'est à ce moment-là qu'il nous a... Béchalach, c'est la sortie d'Égypte et Kriyat Yam Souf. À ce moment-là, Amalek nous a attaqués. Et dans Kitetsé, on te dit, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek, etc. Et juste avant cette paracha de le morceau Zachor, donc Zachor, c'est trois psukim. Zachor, Tachir Asalcha, Amalek, etc. Derer, Baderer, etc. Juste avant, de quoi on parle? C'est toujours intéressant de savoir d'où on vient pour nous dire tout à coup comme ça. Ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, l'injonction de souviens-toi d'Amalek. Vous savez ce qui est écrit juste avant? Juste avant, il est écrit... C'est un... Merci. C'est marqué « Lo yelcha b'chisra » « Tu n'auras pas dans ta poche « Even va'even gdola uktana »« Lo yelcha b'betcha efa va'efa gdola uktana »« Even shlema v'atzedek yelach » Efa shlema, batzedek, yelach, leman yarichu yamecha, al ha'adama asher Hashem elokecha noten lach, ki to'avat Hashem elokecha kol ose ele, kol ose avel. Il dit, tu n'auras pas des faux pois. C'est la fameuse histoire des faux pois. Alors, il faut dire, justement, que le problème des faux pois, c'est pas simplement tu ne voleras pas. C'est pas que le pois qui est marqué un kilo, il n'a que 900 grammes, et quand quelqu'un vient acheter un kilo de cerises, il va payer un kilo, mais il n'aura que 900 grammes. Ça, c'est du vol, pour ça, on n'a pas besoin d'une paracha. Ce qui est interdit, c'est d'avoir un poids d'un kilo, qui ne pèse vraiment, parce qu'il a été mis dans le sel, ou etc., il a été rongé par le sel, ou comme ça, ou par autre chose, et il ne pèse plus que 900 grammes. Mais même si tu dis à celui qui vient acheter un kilo de cerises, écoute, j'ai mis ce poids-là, il est marqué un kilo, mais en fait, il n'y a que 900 grammes, et je ne te ferai payer que 900 grammes. Il ne s'agit pas du tout de voler qui que ce soit. Tu n'as pas le droit d'avoir un faux poids, même si tu corriges. Même si tu ne voles pas. Parce que dire qu'on a un faux poids et qu'on l'utilise, ben c'est du vol. Ben, je n'ai pas besoin de que Moshe Rabbeinu lui dise tu n'auras pas de faux poids, etc. Interdit de voler. Alors, voler avec un. Si tu falsifies les poids, ben, tu es un voleur, c'est tout, c'est terminé. D'accord ? Donc, l'exigence qu'il y a ici de ne pas avoir des poids marqués faux, des poids ou des mesures qui sont fausses, c'est. Tu n'as pas le droit d'avoir ça chez toi. C'est une abomination d'avoir des faux poids. C'est-à-dire, c'est vivre dans le faux, vivre avec des choses fausses. Même si tu les corriges, mais tu vis dans le faux. Et c'est, ça, c'est présenté comme une abomination, en fait. Parce qu'on nulle part on dit que le voler, c'est une abomination. On ne dit pas que voler, c'est une abomination, c'est un issour. Mais à la limite, tu vas aller, tu rentres, c'est tout. On n'en fait pas un plat, c'est quelqu'un. C'est même étonnant un peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement de voir qu'est-ce que c'est Amalek, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le Gaon explique, il dit que Amalek, dans le clan d'Israël, ce sont les Baal et Machloket et ceux qui disent du Lashon Hara. Il dit que c'est pire que tout. C'est pire que les Tava, les gens qui recherchent le kavod, qui recherchent l'argent, etc. Ça, c'est pire que tout. Les gens qui recherchent les Mahloktot. Les gens qui font des Mahloktot. Mahloket. Une Mahloket, c'est quoi? Pourquoi c'est grave? Pourquoi pensez-vous que de faire des marloquettes, c'est tellement grave, finalement. Qu'est-ce que vous diriez?
L'idée la première qui vient, mais qui n'est peut-être pas la plus importante, c'est un risque de casser le lien social.
Casser?
Le lien social. C'est-à-dire qu'on va créer des antagonismes, et donc de casser le shalom entre les...
Oui, mais c'est vraiment... Je pense que c'est l'essentiel. C'est-à-dire, en fait, si on fait des machloquettes, il n'y a pas d'unité du clan. Machloquettes, c'est faire des parties. C'est-à-dire, on casse l'unité du clan d'Israël. Cette unité du clan d'Israël, Lashon Hara, c'est la même chose. Tu dis Lashon Hara de quelqu'un, tu le mets à l'extérieur. Quoi. Et on voit très bien que c'est de ça qu'il s'agit, puisque la sanction du Lashon Hara, c'est Metzora, c'est cette lèpre qui dit... On va voir ce qu'il en est à l'extérieur. Donc, tu as voulu mettre quelqu'un à l'extérieur, va l'expérimenter ce que c'est d'être mis à l'extérieur. Je vous rappelle que quand Moshe Rabbeinu s'est posé la question de savoir, mais comment se fait-il que les Bnei Israël souffrent tellement? Il a une question. Et quand Datan et Aviram l'ont dénoncé, il y a de la délation dans le clan d'Israël, j'ai plus de questions. D'accord ? Moshe Rabbeinu, la question qu'il avait, comment il souffre, pourquoi il souffre tellement, elle s'en va. Dès le moment où on dit il y a de la délation, il n'y a plus de questions. Pourquoi ? Parce que s'il y a de la délation, alors ça casse le clan. Si on dénonce, ils dénoncent un juif et un goy, c'est ce qu'ils ont fait, dénoncer Moshe à Paro. C'est fini, il n'y a plus de... Tu casses le clan d'Israël. Alors, on peut dire, nous lisons Parchat Zahor, ce Shabbat, après avoir lu Parchat Shkalim. Le Parchat Shkalim, c'est quoi? J'ai l'impression que Parchat Shkalim, c'est fabriquer un clan, et Parchat Zahor, c'est veiller à ne pas le faire éclater, le préserver. Et c'est seulement... Il ne suffit pas, comme c'est marqué avec... Souviens-toi et n'oublie pas, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est le risque de le faire éclater, il est tout le temps là. Il y a toujours des raisons de faire éclater l'unité. Il y a celui-là qui... Celui-là, il veut le pouvoir, il veut ceci, etc. Et donc, et puis voilà, on fait... Ah, ce parti-là, oui, mais moi, je voudrais... Il faut le partager avec quelqu'un, alors je fais un autre parti. Encore un autre parti. On partitionne le clan Israël en groupes qui ne peuvent pas se voir en peinture et qui sont capables d'échouer, de faire échouer des projets intéressants parce qu'ils ne veulent pas partager avec l'autre. C'est des choses...
Vous iriez jusqu'à dire que lorsque la Torah la nous parle d'un Malek dans Vador,
oui, oui.
Ça on pourrait jusqu'à l'interpréter que c'est pour les Juifs aussi.
Tout à fait. Le gars de Vina, il dit clairement que l'Amalek, c'est toujours... Les gens, c'est les autres, mais c'est pas vrai. Il y a l'Amalek en nous. On a dû ça avant nous aussi, d'ailleurs. Non, l'Amalek, donc... De même qu'il y a un Yetzirah extérieur et un Yetzirah intérieur, il y a aussi un Amalek extérieur... Et le commencement, c'est un Amalek qui arrive de l'extérieur, comme toujours. Le Yetzerara, le serpent, il vient de l'extérieur, mais après, on l'intériorise. Et donc, par le biais du Erev Rav ou des choses comme ça, on a fait entrer dans le clan Israël ces éléments, parce qu'aujourd'hui, qui sait Amalek, il n'y a personne qui s'appelle Amalek. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens diront, aujourd'hui, Amalek, c'est les Palestiniens, mais qui dit que c'est les Palestiniens? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de... À la limite, on pourrait presque dire ça ne peut pas être les Palestiniens, parce que les Palestiniens, ils ont une raison pour ce qu'ils font. Tandis qu'Amalek, il n'a pas de raison. Amalek, c'est celui qui attaque sans raison, pour le principe.
A priori, quand même, il y a eu... Est-ce que il y a eu vraiment un peuple amalécien?
Il y a eu un peuple à un certain moment, mais bon, il a vite disparu. Il y a encore un peuple au moment de... Disons, dans la Bible, au sens large, on parle encore d'Amalek, parce que les gens de Yitro, ils étaient les voisins d'Amalek. Alors on leur dit, mettez-vous à carreau, parce qu'on va attaquer Amalek. Mais après, Amalek s'est répandu. Comment Aman, qui est en Iran, comment il peut être descendant d'Amalek? Comment il peut être un Amalek, lui? C'est même être très étonnant, c'est parce que les Perses, c'est pas des Sémites, et Amalek, c'est un Sémite, parce qu'il est le fils d'Essav, le petit-fils d'Essav.
Mais comment s'est attesté cette histoire Aman Amalek?
Mais parce que c'est marqué, Aman, il est Agagi, il est un descendant du roi Agag que Shaoul n'a pas tué, enfin, il n'a pas tué en son temps. Agag, c'est l'Amalek. Shaoul, il est allé faire la guerre contre Amalek, et il avait comme tâche de tuer le roi et de faire disparaître complètement Amalek. Et il n'a pas massacré les troupeaux, et il n'a pas tué tout de suite le roi. Il voulait faire pendant une grande cérémonie et le tuer en grande pompe. Là. Et il était sûr que c'est ça qu'il fallait faire. C'est pour ça que quand il revient de la guerre, il rencontre Shmuel et il lui dit « J'ai fait ce qu'Hachem m'a demandé. » Et Shmuel, il est dévasté, Shmuel, parce qu'il aimait beaucoup Shaoul. Et il voit que Shaoul, il ne se rend même pas compte. Shaoul, c'est le bonhomme qui n'a jamais fait de faute, c'est le type parfait par excellence. Il ne comprend même pas ce qu'on lui veut. Il ne comprend pas que ça, j'ai voulu... Le peuple voulait apporter, au lieu de les massacrer, les agneaux, on va en faire des corbanotes. Et au lieu de le tuer comme ça, la va-vite, on va faire une grande cérémonie, on va lui couper la tête. Et Shmuel lui dit, mais est-ce que tu crois qu'Hachem, il préfère les corbanotes ou il préfère qu'on obéisse à ce qu'il aime? On voit très bien que Shaoul, il ne comprend pas ce qu'on lui veut. Il met un temps fou à comprendre qu'il a fauté. parce qu'il n'a rien fait de mal. Il a pensé. Bon, le peuple voulait ça. Alors on lui dit, mais tu ne dois pas suivre le peuple, c'est toi le roi. Tu dois leur imposer. Si à tes yeux tu es petit, re-shifte Israël. Tu es le chef des tribus d'Israël, donc tu dois leur imposer ces choses. Mais il ne l'a pas fait, mais pourquoi? Parce que finalement, il est d'accord. Pourquoi on ne ferait pas plutôt des corbanotes que de les massacrer simplement? Et donc il va y avoir de l'Amalek, bien sûr, dans le clan d'Israël. Et c'est cet Amalek-là qui est probablement le plus difficile, la chose la plus difficile à faire. Alors, à un moment qu'il ramène dans la Torah, il ramène cette idée un peu rapidement, mais il ramène aussi qu'effectivement, c'est contre nous-mêmes. La guerre d'Amalek, c'est une guerre contre nous-mêmes, contre nos faiblesses, contre nos tentations, en quelque sorte, justement, d'accepter ce flou, de vivre dans le flou. Question.
Donc là, on n'a pas, d'après vous, à interpréter cela comme certains le font sur cet antisémitisme qui revient.
Mais c'est peut-être à l'antisémitisme des Juifs eux-mêmes.
Vous pensez que ça pourrait être.
Je n'en sais rien qui est à l'extérieur. Mais à la limite, ce que je me dis, c'est ce qui est à l'extérieur, j'en ai rien à faire. Qu'est-ce que je peux faire sur ce qui est à l'extérieur ? Je veux me défendre contre l'extérieur. Mais le travail, je ne peux le faire que sur moi-même. Qu'est-ce que je vais faire sur le travail ? Je vais aller leur expliquer aux anciens nazis, aux anciens de fachos, etc. Je vais leur dire, vous êtes des méchants, les juifs sont gentils, etc. Qu'est-ce que vous allez raconter ?
D'aller jusqu'à dire que si ce travail était fait,
ben oui,
il y aurait peut-être plus.
Parce que Amalek qui se nourrit de la négativité d'Israël. Donc si maintenant nous on supprime la négativité, il va crever. Amalek, il ne peut pas se nourrir d'autre chose. Donc si vous voulez, c'est un grand problème. Le problème, il est sur quoi je peux travailler si ce n'est sur moi-même ? Je ne peux pas travailler sur les autres. Alors, un travail, c'est cette exigence qui a l'air complètement folle. Je vois bien que quand on lit ça, la plupart des gens, ils comprennent, ils disent, bon, il ne faut pas avoir des faux poids, c'est très bien. Bien sûr, c'est vilain d'avoir des faux poids, de tromper les gens, de les voler. Ce n'est pas ça le problème, parce que si c'était ça, la Torah elle nous a déjà dit plusieurs fois qu'on n'a pas le droit de voler. Ces faux poids, tu n'as pas le droit de les garder chez toi, même si tu ne les utilises pas du tout. Et même si quand tu es amené à les utiliser, tu dis au bonhomme, écoute, il n'y a que 900 grammes dans ce que je t'ai vendu. Donc, je n'ai pas volé. Donc, il faut comprendre, on n'a pas le droit de vivre dans le faux, de vivre avec des choses qui sont fausses autour de soi. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire il faut. Il y a beaucoup de faux dans la. Pas seulement les fake news. Où on vit complètement dans le faux aujourd'hui. D'accord ? Où les gens disent. Il y avait un temps où on disait la vérité, c'est ce que dit le parti. Le parti communiste. C'est ça la vérité. Ouais. Et maintenant, on dit même pas la vérité. Maintenant, c'est faux, mais ça n'a pas d'importance. Je l'ai dit comme ça. Un type qui est président des États-Unis, il te dit des choses fausses en pleine figure, des vrais mensonges, et il est président des États-Unis. Et puis.
Mais il semblerait que ça va même plus.
Les autres aussi.
Mais il y en a qui disent carrément que leur job, c'est de produire du faux.
Ils apprennent juste après ça. À part ça, c'est anecdotique, mais. Le Even Shlema, tu auras Even c'est un poids parfait. Le Gaon, il dit que c'est lui dans la Torah. Il dit que le nom de chacun est dans la Torah. Et, le Gaon, il s'appelait Eliyahu Ben Shlomo. Even Shlomo, Shlema, il dit Aleph Ben Shlomo, c'est lui. On lui a demandé où il est. On lui a demandé à un prêtre de Vologine où était le Gaon dans la Torah. Il est là, Even Shlema. Et on sait du Gaon que les parchiotes du Sefer Dvarim, correspondent chacune à un siècle dans le cinquième, dans le dernier millénaire. Alors, ça veut dire qu'à cet endroit-là, on est à peu près à la République, à la Révolution française. On a demandé à son élève, à Ephraim de Vologine, où il était lui, il n'a pas voulu répondre.
Oui, un petit peu après.
Il doit être dans le voisinage, mais où il est, il n'a pas voulu répondre.
On peut savoir.
Si on peut savoir, mais j'en sais rien, comment on peut savoir.
Il faudrait savoir déjà.
Le seul point de repère, c'est lui, mais par exemple, j'avais une fois essayé de regarder, mais. On ne sait pas si c'est sa naissance, si ça date, ça fait quand même, c'est la date de sa mort, la moitié de la vie, ou le moment de son Yahrzeit, ou je ne sais pas.
Tu voudras trouver déjà ses lettres.
Non, mais j'ai le Gaon, donc je peux savoir. Je sais que la parasha de Kitetsé, elle correspond à ce siècle-là, au siècle dans lequel est le Gaon. A vécu le Gaon, alors. Mais maintenant, si j'essaye d'avoir une échelle plus précise, je suis un peu embêté parce que je ne sais pas, est-ce qu'il faut prendre ça, est-ce que cet endroit-là, dans le texte, c'est sa naissance, c'est l'année de sa naissance ou l'année de sa ptira ou une autre année? C'est pas toujours probablement lisible comme ici Aleph Ben Shlomo, je veux dire, lui il dit que c'est ça. Il y a plein de gens qui s'appellent Avraham Ben Shlomo ou je sais pas, ou Alexander Ben Shlomo ou comme ça, hein? Mahlouf, ouais, mais Mahlouf c'est pas Aleph, il faut Aleph Ben, hein? Aleph Ben Shlomo. Alors, si on dit que c'est Alexander Ben Shlomo, il y a quelqu'un qui s'appelle Alexandre qui est fils de Shlomo. Quoi? Il lui l'a dit sur lui.
Oui, mais je comprends que le A.
Oui, ça c'est le Gaon de Vilna, il savait ce qu'il disait. S'il l'a dit, c'est qu'il sait que. C'est sûr que c'est pas marqué, il n'y aura pas d'endroit où ça sera marqué Alexander Mahlouf. C'est quelque chose que toi tu pourras éventuellement, peut-être pas toi, mais qui pourra te caractériser, mais c'est peut-être pas du tout ton nom. C'est peut-être une mida ou un rôle que tu joues, je ne sais pas, peut-être marqué ici, pour chercher poétique, où est-ce que c'est marqué le... Alors, bon, ça c'est donc... Alors, bon, ça c'est ce que je voulais dire sur Parshat Zachor, c'est important de mettre les deux choses en rapport. Et maintenant, quant à Pourim, c'est la première fois que le clan d'Israël a accepté une mitzvah publiquement, d'ajouter une mitzvah, à l'ensemble des mitzvot. 613 mitzvot. Alors, il y a d'autres mitzvot, mais avec publicité, etc., d'ajouter une mitzvah, ce qui est la lecture de la Megillah. C'est Pourim, quoi, les mitzvah des Rabbanan, une invention d'une mitzvah des Rabbanan, qui sera suivie par d'autres. Il y aura Hanouka où on va ajouter la mitzvah de Hadlakat HaNerot, de Hanouka. Il y avait d'autres choses, donc Nitilat Yadayim par Shlomo HaMelech, des trucs comme ça, mais ajouter les choses comme, en tant que mitzvah publiquement ajoutée. Et donc, on peut se demander pourquoi tout à coup ils ont décidé qu'il fallait ajouter une mitzvah. Je veux dire, le présenter comme une mitzvah, on aurait pu dire, bon, ben, c'est pas là. Il y a Rakaratatov, on fera un repas, mais on n'en fera pas un plat. On va pas. Des pourrims, dans l'histoire, il y en a eu beaucoup. Des cas de figure où il y avait des espèces de pogroms qui s'annonçaient, qu'on a réussi à éviter, etc. C'est connu qu'il y a plein d'endroits où on parle le pourrim de Constantine, le pourrim de celui-ci, etc. Des pourrims différents. On aurait pu faire de ce pourrim-là aussi, hein, il y a un pourrim de Shushan. D'accord. Et comment se fait-il que ce soit devenu une mitzvah, en fait? Qu'est-ce que les Chachamim ont vu dans cette affaire d'important pour en faire une mitzvah? En plus, c'est une mitzvah, non seulement c'est donc une mitzvah des Chachamim, mais c'est une mitzvah qui a été décidée en réalité en dehors de, enfin, je veux dire, toutes les autres mitzvot aussi, en dehors d'Eretz Israël. Ces trucs, il se passe quelque chose en dehors d'Eretz Israël, et les autorités en dehors d'Eretz Israël inventent une nouvelle mitzvah qui va s'imposer à tout le monde. C'est intéressant pourquoi ça s'est imposé à tout le monde, en fait.
Alors, les juifs éthiopiens, ils étaient à Mbaïkouan.
Oui, c'est possible, ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire ils sont sortis au moment de la destruction du premier Bétamigdash. Oui, parce que ce qui est Minatora, ça, ils connaissaient probablement, mais les autres, ça se trouve, ils n'ont pas lieu de le connaître. Mais pourquoi ça a pris, en fait? Il faut imaginer que il y avait quelque chose de particulier qui a fait que cette fête de Pourim, là, enfin, alors, vous pouvez dire, ben, il y a aussi ceci de particulier, c'est qu'on a écrit un texte inspiré, ou, ça va exactement, il semble peut-être que l'inspiration, c'était justement d'être capable de l'écrire comme il a été écrit, ce texte. Si aujourd'hui on avait écrit le texte, si quelqu'un aujourd'hui se mettait à écrire la même histoire, est-ce qu'il l'écrirait sans mention du nom d'Hachem? Il l'écrirait en disant « Hachem nous a aidés », etc. Il y aurait... Donc il y a une inspiration paradoxale d'écrire le texte comme il était écrit. Et bon, alors, à part toutes les preuves que la Gemara apporte que c'était... que Esther était inspirée parce que comment elle savait ceci, comment elle savait cela, etc. Mais visiblement, il y a quelque chose d'important et qu'elle est tellement important qu'elle a obligé les Chachamim à intégrer ce texte dans le canon biblique. Alors qu'ils ne voulaient pas. Ils avaient même des raisons de ne pas vouloir. Sûr que c'est problématique d'intégrer dans le canon biblique un texte dans lequel on dit qu'on a massacré les goïm. C'est les gens qui parlent alors qu'ils sont en galoute. Ils sont en galoute et on va se targuer. D'accord, non seulement on les a massacrés, mais en plus ça devient un texte sacré. Enfin, ça fait partie des hagiographes. C'est des Ktuvim dans le Tanakh, quoi, qu'on a massacré les goïms. Elle, malgré tout, Esther, semble-t-il, elle a eu gain de cause. Et ce qui est surprenant, c'est pourquoi elle a eu gain de cause. On ne sait pas pourquoi elle a eu gain de cause. On a l'impression qu'elle a dit « je veux ». Et puis bon, ils ont dit « non, on ne veut pas », et puis elle a dit « je veux ». Et puis ils l'ont fait. C'est étonnant. Comment ça se fait qu'elle a eu un pitom? Depuis quand Bon, elle était la reine, d'accord, mais elle n'était quand même pas la reine des Juifs, elle était la reine de Perse. Donc, probablement, Elle a réussi à les persuader qu'il y avait quelque chose de très important dans le fait d'intégrer, et puis dans le fait de mettre dans ce texte des mitzvot, quoi, un texte de base. Ce qui ensuite frappe tout le temps, c'est que la Maseret Megillah, elle traite le texte de la Megillah comme le texte de la Torah. C'est-à-dire, elle demande d'où tu sais ça, et puis elle répond, ben, c'est écrit dans la Megillah. C'est écrit dans la Megillah, alors. C'est ce que ça veut dire. Ok, c'est écrit dans la Megillah. Alors justement, comme la Megillah, elle a été intégrée dans le texte, dans le canon biblique, mais d'un autre côté, elle est intégrée à un endroit où on n'accepte jamais d'amener une preuve des textes du Nach. Pour les preuves, c'est seulement de la Torah, mais pas du Nach. On apporte un truc, un appui du Nach, on dit c'est une asmarta, c'est une façon de s'appuyer sur tel verset. Quoi, on n'amène jamais de preuves du Nach, on apporte des preuves de la Torah, mais pas du Nach, pas de la partie Nenvim. Les prophètes, ils n'ont pas qualité pour légiférer, en fait. Ils ne peuvent pas inventer. Un prophète ne peut pas inventer une mitzvah. Et eux, ils ont inventé une mitzvah. Esther, Mordechai, ils ont inventé une mitzvah. D'accord, elle est des rabbanans, mais ils l'ont inventée quand même. Avec un statut de mitzvah, c'est... Pourim.
Ah oui, c'est vrai qu'à la fin, c'est
à la fin, ils ont envoyé des lettres aux gens, vous allez faire Pourim. Et j'ai déjà dit plusieurs fois que Schubert, il ramène que les gens qui habitaient dans les villes fortifiées, les villes avec murailles, ils ne voulaient pas faire Pourim. Ils disaient, mais on n'était jamais vraiment en danger, on les connaissait, c'est nos amis, et ils ne nous auraient jamais attaqués, etc. Ils ne voulaient pas faire pourri. Mais la Gemara, elle dit, ok, alors ils font qu'ils ne fassent pas pourri, mais pas moi, non, mais c'est des juifs, on veut quand même que tout le peuple fasse la même chose. On ne voulait pas, parce que c'était justement le problème. Le problème, c'est le problème de l'unité du peuple. D'accord ? Ça veut dire, qu'est-ce qui est important, me semble-t-il, dans Megillat Esther ? C'est qu'on a un récit de quelque chose qui est présenté comme une unité du peuple. Le peuple qui est accusé par l'extérieur, par Haman, par Amalek, d'être Mefouzar, Mefourad, etc. Ben, nous, on dit, non, ils se sont rassemblés. Tout le monde était... Tous les juifs étaient d'accord, tous les juifs étaient... Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était surtout les gens de Shushan qui étaient là? Bon, c'est pas... Mais en tout cas, l'idée, c'est... l'unité du peuple. Et donc peut-être que c'est ça l'argument fondamental, c'est qu'on est en galoute, et la galoute c'est fait pour dissoudre le peuple, quoi, quelque part. Pourquoi tous les peuples, quand ils sont exilés, ils disparaissent? Quand un peuple est entièrement exilé, ben, il disparaît. Et nous, on n'a pas disparu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, la fabrication d'une notion d'unité du peuple. Me semble-t-il. Je dirais que... Et toutes les mitzvot tournent autour de ça, en réalité. Il faut lire la Megillah. Mais on dit qu'il faut lire la Megillah essentiellement en public. Il y a une halakha qui dit que, par exemple, s'il y a plusieurs synagogues, on devrait se rassembler dans la plus grande des synagogues, Berov Am Adrat Melech. Plus il y a de gens, plus c'est la gloire du roi. Donc, en vérité, on ne le fait pas tellement, mais il y avait des endroits où, je sais qu'à Minsk, il y avait ce qu'on appelait la Kalteshul, elle était froide parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour la chauffer tout le temps, tout l'hiver, mais à Pourim, tout le monde allait écouter la Megillah dans la Shul froide, dans la grande Shul, tout le monde venait au même endroit. Chaleur animale, tu veux dire?
Non, la vodka.
Je n'ai pas marqué. La vodka, ils en avaient partout. Mais pas Il ne fallait pas aller à la choule pour avoir de la vodka.
C'est cette solidarité, donc elle
est reflétée dans les halachot.
Elle est reflétée par le Tanit, par le...
Non, le Tanit, oui, le Tanit aussi, bon, ça c'est le Tanit, mais pour Purim lui-même, il y a le rassemblement pour lire la Megillah. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donner des cadeaux les uns aux autres. Au moment des fêtes, ils ont tous jeûné en même temps qu'elle. Elle a dit jeûner. Et ils ont accepté de jeûner, bien que ce soit à Pessah. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mangé la matzah, disons. Quand Pessah n'arrivait plus, puisqu'on était en galoute. Ils n'ont pas mangé la matzah le soir du 15. Le soir de Pessah. Puisqu'il fallait jeûner 3 jours. Ils ont jeûné, ils n'ont pas fait. C'est pas une avéra, comme les gens font. Ils n'ont pas fait d'avéra, ils n'ont pas fait la mitzvah positive de ces mitzvot assez. C'est une mitzvah positive. Ils n'ont pas mangé du chametz s'ils jeûnaient. Donc les gens font comme si on avait détruit le korban pessah. Il n'y a pas de korban pessah depuis longtemps. Et d'une part, on est en galoute, il n'y a pas de korban pessah. Deuxièmement, tout ce qu'il y avait la mitzvah de manger de la matzah, ils n'en ont pas mangé. Ok, pas mangé ce jour. C'est un noussim. Je veux dire, il y a plein de gens qui sont malades, qui ne supportent pas, je ne sais pas, le gluten ou je ne sais pas quoi, qui ne mangeront pas de matzah. Ils ne mangent pas de matzah, c'est ce qu'ils peuvent faire. Je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas là, quoi. Un peu, ils veulent dire aussi qu'on ne respecte pas la sortie d'Égypte. Ils n'ont pas mangé de la matzah. Si ça se trouve, ils ont prié Pessah. La tfila, c'est la tfila de Pessah. Ils n'ont pas... si ça se trouve, ils ont peut-être dit Hallel et tout ce qu'on veut de Hallel de Pessah. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils n'ont pas fait la suite mitzvah-là. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait. Peut-être qu'ils ont fait le seder sans manger. Qu'est-ce qu'on en sait? A priori, on n'est pas obligé de manger. La mitzvah de Sipoy et Tsiat Mitzrayim, dedans, il y a des obligations, mais maintenant, si je n'ai pas le droit de manger, ben, je ne mange pas. Ça n'empêche pas que le récit de Pessah, il peut être fait complètement. Donc, c'est pas vrai qu'il y avait ce problème. Il n'y a plus la sortie d'Égypte, plus Hachem qui va intervenir, etc. Ça, c'est pas vrai. Donc, donner les cadeaux, bon, c'est bien fabriquer du lien. Après, donner de l'Azdaka à ceux qui en ont besoin, c'est aussi fabriquer du lien. Donc, on voit très bien que, qu'est-ce qu'on veut? Fabriquer du lien, fabriquer... Et c'est ça le... Et toute l'idée, c'est ça. Toute l'idée, c'est, voilà, il faut quelqu'un qui unifie. Il a fallu une Esther pour donner des ordres au clan d'Israël. Une bonne femme qui donne des ordres, qui dit, voilà, vous allez jeûner 3 jours, et après, moi, j'y vais. Et elle va sauver le clan d'Israël. Bon, c'est vrai, elle a sauvé le clan d'Israël, mais... À la limite, si on dit ça comme ça, on comprend à la fois pourquoi il voulait absolument le mettre comme dernier texte du canon biblique, parce que c'est le texte de l'exil en quelque sorte. C'est un texte qui a été fabriqué en exil où Hachem, on ne met pas Hachem en évidence parce que on est en exil, parce qu'il y a Esther Panim, parce qu'Hachem donc c'est bien pour montrer qu'est-ce qu'il faut. Ben, il faut mettre en avant cette notion d'unité. Fabriquer de l'unité dans le texte, faire un récit qui rassemble tout le monde, que les gens sachent un peu comment les choses se sont faites. Et on ne dit pas non plus tout. Parce que je rappelle toujours que... Enfin, toujours, je vous rappelle que Esther s'est trompée. Esther elle-même, quand elle est devant Ahasvéros et Haman, au fameux michté, d'accord, elle a fait un michté, et quand il lui a demandé ce que tu voulais, il a dit bien reviens, parce que il semble qu'elle n'ait pas su exactement, elle ne le sentait peut-être pas. Alors elle lui dit de revenir, et quand il vient, elle va parler, elle parle, et à ce moment-là, quand elle dit, mais j'aurais rien dit si c'était qu'on voulait nous piller, ou etc. Mais là, on veut nous tuer. Donc, je ne peux pas rester les bras ballants comme ça. Donc, Alors, Achashverosh Il dit, ce faucheton, il dit, mais qui c'est qui a ce projet-là? Elle a pointé à Achashverosh, elle. Elle pensait à Achashverosh. Je ne sais pas pourquoi elle pensait à Achashverosh, je n'arrive pas vraiment à comprendre. Parce que c'est les Achashverosh. Mais il y a suffisamment de drachot qui disent que quand Mordechai lui a fait part du projet de destruction, il lui a dit, ça vient de, il a été Meramez, ça vient du Amalek, ça vient d'Aman. Donc il le lui a dit, enfin, de façon, en tout cas, la dracha de Chazal, c'est qu'il lui a dit, ce projet-là, c'est un projet amalécite. Donc elle sait que c'est Aman. Elle sait bien que c'est Aman qui est. Alors, elle a pointé à Achashverosh, ce qui aurait été un désastre fini, parce que celui qu'elle pointait, il allait mourir, l'autre allait le tuer. Aman aurait tué Achashverosh à ce moment-là. Au petit titre de « t'as voulu détruire le peuple, il ne faut pas ». Une fois qu'il aura détruit Achashverosh, il aura Esther en face de lui, mais il sait aujourd'hui qu'Esther est juive. Et il sait donc. Donc Esther, elle n'a aucun moyen d'essayer d'agir sur Aman. Alors, je ne sais pas ce qu'elle aurait dû faire si c'était comme ça. En tout cas, c'est marqué que Malar Gabriel, il est venu, il a détourné son bras pour qu'elle pointe Aman. Et donc, c'est-à-dire qu'elle, au fond d'elle-même, elle sait qu'elle s'est trompée. Il n'y a qu'elle qui sait, d'après Chazal. Tout le monde pense, on voit bien, son doigt, il a montré Aman. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en réalité, si son doigt a montré Aman, c'est parce que Gabriel, l'ange Gabriel, a détourné son doigt pour qu'elle montre Aman. Donc elle, dans sa tête, elle sait. Elle a fait tout le boulot, elle a fait un boulot gigantesque, elle a risqué sa peau et tout ce qu'on veut, elle a provoqué la chute d'Aman, mais jusqu'au bout, elle s'est trompée. Jusqu'au bout, c'est Hachem qui a sauvé le peuple d'Israël. C'est pas Esther. D'accord? Comme si, c'est pas possible. Si Hachem ne nous aide pas, même dans Esther Panim, à la dernière minute, ouais, c'est Esther Panim. Hachem n'intervient pas. Mais si, il a quand même intervenu. Parce que tout à la fin, ça aura pu mal tourner. Donc, il me semble que c'est ça que, enfin, disons, cette année, je pense à ça, quoi, quand je regarde la Megillah. Quand je lis la Megillah, je pense à ça. Je pense que c'est ça le...